Jérusalem, rien que ça. Voici le nom de la nouvelle pièce d'Ismaël Saïdi, l'auteur belge d'origine marocaine, qui s'est fait connaître en France avec sa pièce « Jihad », un succès phénoménal. L'auteur revient une fois de plus sur les thèmes qui lui sont chers, l'identité, le rapport aux religions, aux migrations et à la guerre. La pièce se déroule dans une vieille maison à l'est de Jérusalem, dans le quartier de Sheikh Jarrah. Après un interminable procès, Delphine, canadienne, juive, arrive pour récupérer les clés de la maison de sa grand-mère, occupée depuis des décennies par la famille de Shahid. Comme on l'imagine, la rencontre ne commence pas vraiment sous de bons augures. Jusqu'à ce que nos deux personnages soient visités à la manière d'un D-book par leurs aïeux respectifs. Dès lors, Shahid et Delphine n'auront d'autre choix que d'entendre le parcours de l'un et de l'autre, deux histoires bousculées par l'histoire du XXe siècle. Rencontre avec l'auteur, l'acteur aussi puisqu'il interprète Shahid, dans la pièce aux côtés d'Inès Veil et Fiona Lévy en alternance, une pièce formidable de générosité, d'émotion, de pédagogie, de courage aussi, vous allez voir. Ismaël Saïdi, bonjour.
Bonjour.
Votre précédente pièce, Jihad, qui a été un immense succès, parlait de... des jeunes enrôlés pour faire le djihad en pleine guerre en Syrie. Donc je sais que vous n'avez pas froid aux yeux, mais alors pourquoi ce sujet-là?
Déjà, ça part de la même naïveté presque stupide parfois qui m'a envoyé avec djihad. Djihad, j'avais écrite en 2014. Personne ne parlait de gosses qui partaient en Syrie. J'avais vu une photo d'un mec sur Facebook qui était moi en classe quand j'avais 16 ans. Là, j'en avais 38, on était en 2014. Il était en Syrie avec une Kalachnikov et un drapeau de Daesh derrière lui. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il est parti? Et du coup, les idées sont venues toutes seules. Et j'ai raconté le passé, à savoir mon passé à Bruxelles, dans un quartier assez communautariste, avec toutes ces problématiques liées à la construction identitaire. Et Jihad est né, et ça devait tenir 5 soirs et disparaître à tout jamais après la dernière, qui était le 30 décembre 2014. Puis il y a eu Charlie Hebdo, puis il y a eu l'épicerie cachère, puis il y a eu tous les attentats qui ont suivi. Et les médias se sont intéressés à cette pièce. Et effectivement, je vous parle de Jihad parce que Jihad est à l'origine de Jérusalem. Donc effectivement, cette pièce cartonne alors qu'elle n'aurait pas dû. Moi, je suis pris dans un tourbillon que je n'avais pas anticipé. Ça fait presque 12 ans là qu'elle tourne. Il y a plus de 3 millions de personnes qui l'ont vue. Elle est dans les programmes scolaires en France. Enfin, elle a été traduite dans le monde entier. Mais surtout, après Jihad, il y a toujours un débat. Il y a toujours eu un débat avec la salle pendant toutes ces années. Et un truc qui m'avait toujours perturbé, parce qu'il y a eu une suite à Jihad, il y a eu GN, puis il y a eu Eden, et à chaque fois pendant les débats, tout ramenait aux Juifs. C'est assez intéressant d'ailleurs, que tout ramenait aux Juifs. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait un Juif derrière. Les gosses, c'était les Juifs, c'est les sionistes, etc. Et donc ça m'a obligé pendant des années à essayer de comprendre, à faire de l'histoire, à chercher, à décortiquer, à déconstruire les idées. Et on est en 2022, je viens de finir la création d'Eden, qui est le dernier volet de la trilogie de Jihad, et je me dis, j'aimerais bien parler de la Shoah. C'était ça au départ le truc. Apparemment, à chaque fois que je rencontre des profs, ils n'arrivent pas à en parler avec les élèves. À chaque fois, c'est très compliqué. À chaque fois, c'est « ouais, mais vous les Juifs, on vous connaît, vous n'arrêtez pas de chialer, vous utilisez ça comme victimisation pour mieux les écraser, etc. » Je me suis dit « tiens, si j'ai réussi à parler du pire sujet qui existe sur Terre, à savoir la radicalisation religieuse, à savoir l'islamisme, à savoir les attentats, etc., et que les gosses continuent à me suivre et qu'ils plébiscitent ce que je fais, si je prenais le risque d'aller un peu plus loin. » J'ai cette idée, j'ai vu un article dans Le Monde, un fait divers sur un Palestinien qui doit remettre sa maison à une famille juive qui a prouvé que cette maison leur appartenait avant 48. Il y a eu des émeutes, etc. Et moi, je trouve que la symbolique est très belle. À qui appartient réellement la maison? À celui qui a les papiers ou à celui qui a habité pendant 50 ans? Je trouve ça assez beau.
Et là, finalement, la pièce, donc, comme je le disais, qui parle de deux personnages, Shahid, qui habite dans un quartier de Jérusalem-Est, rue de l'Espoir, encore tout un symbole, et il perd devant le tribunal. Il se rend compte qu'il doit quitter sa maison d'enfance parce qu'une certaine Canadienne, Delphine, débarque et dit « cette maison est à moi » et qu'elle a les papiers, les titres de propriété. Voilà. Donc les deux personnages se rencontrent et ça ne se passe pas bien du tout. Sauf que tout d'un coup, les deux personnages vont être habités, on peut le dire, par deux aïeux qui viennent leur rendre visite. Comment vous êtes venu cette idée de faire réfléchir des jeunes adultes, un petit peu chacun campé sur ses positions, par presque ces sortes de D-book qui est un thème très, très juif, yiddish, qui vient les visiter chacun à leur tour et en même temps.
Alors, le principe, il est là. C'est que je me suis dit, sur papier, effectivement, tout est clair. Ils ont même un acte qui prouve qu'ils habitent là, etc. Donc, je me dis, la situation, elle est inextricable. C'est une belle symbolique du Moyen-Orient qui est inextricable. Et ce sont des situations, surtout, où tout le monde pense avoir raison. Et à partir du moment où tout le monde est sûr d'avoir raison, ma vérité n'a plus aucune valeur auprès de la vôtre, et votre vérité n'a plus aucune valeur auprès de la mienne. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de discuter. Et je me suis dit, comment je peux faire? Et là, j'ai eu cette idée où je me dis, bah, tiens, s'ils sont possédés chacun par leur aïeul, leur ancêtre, Ruth, Dreyfus pour Delphine et Al-Qudsi pour Shahid, ils n'ont pas d'autre choix, ils sont en eux. Donc s'ils sont en eux et qu'ils les obligent à parler, ils peuvent même les engueuler, ils peuvent même les forcer à se taire pour les écouter. Et oui, c'est assez marrant, c'est comme ça que je commence des pièces d'ailleurs, c'est juste en me disant, c'est assez marrant de faire ça. C'est assez marrant s'ils sont possédés et que du coup ils sont obligés d'écouter, parce que là j'ai une autre symbolique. J'oblige la salle à écouter, j'oblige le public à écouter, vous n'avez pas le choix. Je ne dis pas que j'ai raison, ça se trouve j'ai tort. Mais vous allez m'écouter. Et c'est le principe de la pièce. Vous allez écouter ma douleur. Dites ce que vous voulez après. Ma douleur, elle est vraie, pour moi. Et si elle est vraie pour moi, elle existe. Et donc, c'est sur ce principe-là que je me suis dit, on va les faire posséder par leurs ancêtres. Ça me permet à moi d'avoir un personnage féminin, donc Ruth, à qui je vais faire vivre l'histoire avec un grand H. Alors là, je n'ai rien inventé, c'est mon grand mentor Alexandre Dumas qui faisait ça. Il inventait des faux personnages à qui il faisait vivre l'histoire avec un grand H. Et du coup, Ruth va tout vivre, même des choses qu'elle n'aurait pas pu vivre en même temps, mais elle va tout vivre, des pogroms en Pologne, à Kielce, jusqu'à Treblinka, en passant par le retour à Kielce, repogrom, l'exodus, arrivée à Jérusalem, guerre israélo-arabe et départ
vers le Canada,
en faisant ce que beaucoup d'Européens juifs ont fait après la Seconde Guerre mondiale, en disant « on efface ». Il ne nous est jamais rien arrivé. On change notre nom, puisque personne ne nous croit, alors ça n'a pas existé. Donc elle fait ça. Et c'est ce qui fait que sa petite fille n'est au courant de rien. Et en face, on a ce Palestinien, donc ce Shahid, qui campe sur ses positions, à savoir, nous sommes victimes, vous êtes des salopards, vous n'avez rien à faire ici.
C'est une terre arabe depuis toujours.
C'est à nous, vous n'avez rien à faire ici, il n'y a jamais eu de juif avant. Et son propre grand-père va lui dire, en fait, tu es un peu à côté de la plaque. Et pour une première fois, il n'y a pas de compétition avec Tumer. Il y a juste de la souffrance. Et donc, ce que je fais, c'est très simple, c'est que je me suis souvenu de l'ado que j'étais. Je me suis souvenu de toutes les choses qui étaient dites autour de moi. Je me suis souvenu des clichés qui sortaient. Je me suis souvenu de la manière dont, quand le prof d'histoire venait nous parler de la Shoah, on n'en avait rien à cirer. Parce que, non pas parce qu'on était antisémite, mais parce qu'en fait, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et c'est hyper chiant. Et je me suis souvenu que c'était Spielberg qui m'a parlé de la Shoah. Qu'en fait, la première fois que j'ai
la
compris...
La liste de Schindler.
C'est la liste de Schindler. Au cinéma, j'étais gosse, et je me disais, ok, c'est pas le prof qui a réussi à le faire, c'est de la fiction. Donc je vais essayer d'y aller franco, et je vais essayer d'y aller, et bien sûr je vais parler de la douleur palestinienne, mais je traverse la Shoah. Moi, au départ, c'était vraiment ça le truc, c'était comment parler de ce moment de l'humanité qui est quand même assez spécifique. Bien sûr, il y a eu beaucoup de génocides sur Terre depuis la création de l'humanité. La Shoah a cette spécificité qu'on a tué des gens non pas pour leur voler une terre, non pas pour leur voler de l'argent, non pas pour quelques raisons classique de haine qui existe, mais uniquement pour les faire disparaître.
Et de manière industrielle.
Et l'Allemagne a fait même mieux, c'est que l'Allemagne ne voulait pas seulement faire disparaître les siens, elle est même allée chercher ailleurs des juifs pour faire disparaître tout le monde. Ça, c'est assez spécifique. Ça ne veut pas dire que cette douleur est plus forte qu'une autre douleur, mais c'est quand même assez spécifique. Et je pense que l'être humain a besoin de le comprendre pour pouvoir dire à un moment donné, plus jamais ça. Et donc, c'est tout ça, tout ce bordel-là, que j'ai mis en place dans cette pièce en me disant, est-ce que je vais y arriver? C'est pas la peur qu'on me menace. Ça, franchement, ça me passe au-dessus. Et là, je vais avoir bientôt 50 ans, donc je m'en fous encore plus. Non, c'est est-ce que cette fois-ci, je vais encore réussir à les faire pleurer les gosses? Est-ce que je vais encore réussir à les faire rire? Est-ce que je vais y arriver? Et c'est pour ça que la première de Jérusalem, au Théâtre de Liège, qui est un grand théâtre subventionné, c'est très beau, etc. Mais j'ai dit au directeur, je ne veux pas que la première soit tout public, je veux que ce soit une scolaire. Je veux les tester. Soit ils me rentrent dedans, et je me dis, c'est la pièce de trop, j'y arrive plus, j'ai vieilli. Soit je me dis que si avec eux, ça marche, ça marchera avec tout le monde. Et effectivement, la première qui a eu lieu en avril 2024, on avait des gosses dans la salle qui ont vu que le titre c'était Jérusalem, bon les profs les ont un peu forcés à venir, qui venaient en kéfier, j'ai eu des Free Palestine dès l'entrée de la salle, etc. Et dès le début du spectacle, ils ont commencé à pleurer. Et je me dis, ok, ça marche, voilà. J'ai trouvé le chemin pour, avec la fiction, toucher un truc qui est aussi explosif que l'était Djihad. Alors, quand on l'a créé, le 7 octobre avait déjà eu lieu. Et donc, c'était déjà... En plus, c'était la Belgique qui n'est pas le pays le plus juif-friendly qui existe sur Terre. Et donc, c'était déjà hyper compliqué de le faire. On a joué un an plus tard à l'ULB, où les étudiants, à la demande de l'Union des étudiants juifs de Belgique, qui, eux, se faisaient carrément frapper à l'université. Et donc, je me dis, voilà, je me retrouve avec une pièce qui aurait juste dû raconter l'histoire et qui, maintenant, est appelée, comme Djihad à l'époque, à la rescousse de plein de lieux qui disent, bah, écoutez, comment on se fait taper dessus? Est-ce que vous ne voulez pas venir jouer? Et de nouveau, c'est un truc que j'avais fini par refuser à l'époque avec Djihad, en disant, je ne sais plus qu'on m'appelle juste pour régler les problèmes. Et là, je me dis, bah, t'assumes.
Vous êtes un docteur théâtre, quoi.
Je ne sais pas si je suis un docteur théâtre, mais en tout cas...
Un psy,
je dois être un pansement théâtre,
Un pansement théâtre.
Le docteur sera arrogant. Je dois être un pansement théâtre, en fait. Mes pièces, pas moi, mes pièces sont des pansements théâtre. Les gens sortent, ils pleurent, ils rient, ils ont envie de se parler. Et effectivement, moi, j'ai eu à Avignon pas mal d'Israéliens, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, qui passaient par Avignon, qui sont venus voir la pièce, et qui sortaient de là en disant... Le point de vue de l'autre, on ne l'avait pas vu. Encore plus après le 7 octobre, où effectivement beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Juifs à travers le monde, ils ne sont pas nécessairement liés, ont fini par dire ces Arabes, de toute façon, on ne peut rien faire avec eux. Quoi qu'on fasse avec eux, ils veulent quand même nous tuer, etc. Et donc, c'est une forme de plonger dans une autre forme de haine, finalement, ça veut dire d'essentialiser, et de refaire ce que l'autre en face faisait aussi, finalement, essentialiser. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'Israéliens qui sortaient de la salle en disant... Ah ouais, c'est pas aussi. C'est pas blanc ou noir. Et j'ai eu beaucoup de gens qui se considèrent comme étant de l'autre camp, qui sortent en disant ah ouais, c'est pas blanc ou noir, en fait.
D'où vous vient cette empathie, cette volonté de faire dialoguer les cultures? Vous êtes obsédé par toujours les mêmes thèmes identitaires, le multiculturalisme, ce qu'engendrent les migrations. Il y a la guerre qui revient aussi. Beaucoup dans vos pièces.
Dans Moi, Ismaël, un musulman d'ici, donc qui a été adapté, qui est devenu Tribulation d'un musulman d'ici, j'en parle beaucoup. Il y a deux grands axes, je pense, qui ont fait que c'est devenu une espèce d'obsession positive, mais une obsession quand même. Le premier, c'est que mes parents, quand ils sont arrivés du Maroc à Bruxelles, moi, je venais de naître et ma mère me raconte que je hurlais, je pleurais la nuit, j'avais mal, elle était perdue, ma mère, dans les années 70, 76. Et il y a une voisine à l'étage, une vieille dame belge, catholique, qui est descendue et qui a aidé ma mère. Je peux vous aider parce que moi j'étais infirmière pendant la guerre, je pense qu'il y a une bronchite. Cette dame, elle avait 87 ans quand elle est entrée chez nous et elle ne m'a plus jamais quitté pendant 12 ans. C'est elle qui s'occupait de moi. Et donc, mon premier rapport à l'autre, c'est que l'autre n'existait pas vu qu'il était chez moi. J'avais une blanche catholique qui était ma grand-mère, qui m'emmenait à l'église le dimanche. Donc, j'ai un premier rapport à l'autre qui était complètement biaisé.
Et ça ne gênait pas vos parents?
Bah, pas du tout, parce qu'elle faisait partie de leur famille.
D'accord.
Donc, même pas du tout.
Bah, vous savez, et ça ne vous empêchait pas d'aller à l'école coranique?
Non, parce qu'en plus,
le week-end.
En plus, moi, la vie a eu beaucoup d'humour avec moi. Vous savez, en Belgique, j'en parle encore dans le spectacle, en Belgique, les écoles catholiques sont publiques, elles sont gratuites. C'est très différent de la France. Et au coin de la rue, il y avait une école catholique et mes parents ne se sont pas cassés la tête. Ils m'ont inscrit dans cette école-là. J'ai fait 10 ans d'école catholique. C'était le prêtre qui donnait cours. Et donc, j'allais à l'église le mercredi, au catéchisme le vendredi. Et comme mon père a beaucoup d'humour, à l'école coranique le samedi. Et du coup, ça, c'était mon enfance. C'est-à-dire que dès le départ, il y a plein de questions qui vous taraudent. Quand le gars à l'école coranique, il vous dit que tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont en enfer, et qu'à la maison, celle que vous considérez comme étant votre grand-mère, elle est blanche et catholique, il y a une première fissure dans ce mur de certitude. Vous dites, là, il y a un problème, je ne comprends pas en fait, il y a un truc qui ne marche pas. Et donc, les premières questions arrivent, vous êtes tout petit. Et moi, ces questions naïves, et je pense que c'est ce qui fait que mes textes marchent avec les jeunes, en fait, je les repose sur scène. Parce que j'ai passé ma vie à me les poser. Et la deuxième partie, qui était mon autre obsession positive, c'est que vers 13-14 ans, moi j'ai toujours été un grand fan de Jean-Jacques Goldman devant l'Éternel. Et un jour, je pars à l'école coranique, j'avais un Walkman à l'époque. Alors les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais vous devez savoir ce que c'est.
Bien sûr.
Un Walkman, et j'arrive en classe, et le prof, il prend le Walkman, il ouvre, il prend la cassette, il la regarde, et il me dit « T'écoutes Goldman ?» Je dis « Ouais ». Il me dit « Mais tu ne peux pas, il est juif ». Le gars, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et là, je découvre que je n'ai pas le droit parce qu'il est juif, parce qu'il faut détester les juifs, etc., etc. Et du coup, je fais un choix radical, c'est que j'arrête l'école coranique pour continuer à écouter Goldman. Et deuxième fracture, pourquoi? L'enfant que j'étais, c'était pourquoi? C'est quoi le concept, en fait? Pourquoi? Et donc, ces deux obsessions, elles m'ont suivi toute ma vie, et jusqu'à aujourd'hui encore. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai un vrai problème avec le rejet de l'autre qu'on considère comme étant l'autre. C'est juste un problème, mais personnel, je veux dire. Et du coup, dans toutes mes pièces, ça se ressent.
Donc pour vous, on peut tout dire aujourd'hui?
Oui, oui, j'ai toujours tout dit. Je pense qu'on peut tout dire. Ça, c'est le même principe. C'est le premier truc dont on a dû débattre après Djihad, c'est Charlie Hebdo. Et puis tu as les gosses qui viennent te dire directement, du donné, on l'envoie en tôle, par exemple, et Charlie Hebdo, vous dites que c'est leur droit de dessiner. Et en fait, il faut prendre le temps. Souvent en fait, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens. On leur balance au visage. Moi, je prends le temps de dire aux gosses, il y a l'incitation à la haine. Donc quand quelqu'un te dit que tous les juifs détiennent des banques, ça, c'est de l'incitation à la haine, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu essentialises des gens. Et donc ça n'a rien à voir. C'est pas de la liberté d'expression, ça. C'est si moi, je te dis que tous les noirs, c'est des voleurs, tous les arabes, c'est des cambrioleurs. Tu le prendrais mal. Ouais, c'est vrai, monsieur. Ben, c'est le même principe. Si tu dis que tous les juifs détiennent le monde et qu'ils détiennent les banques et qu'ils détiennent les médias et que c'est à cause de ça que lui, il ne peut pas travailler, c'est de l'essentialisation. Par contre, quand il dessine un prophète auquel toi, tu crois, mais peut-être que l'autre ne croit pas, ça se trouve, il n'a pas existé. Il ne t'insulte pas, toi, en fait. Il rit d'une croyance et une croyance, on a le droit d'en rire. Et ça marche. Quand vous prenez 10 minutes pour leur parler, ça marche. Donc oui, on peut tout dire. Mais c'est toujours fascinant de voir que. Pour ouvrir une parenthèse, de voir que quand on veut parler de la douleur des Juifs, il faut toujours la mettre en équilibre avec la douleur de quelqu'un d'autre. On ne peut jamais en parler comme une douleur solitaire. Mmh. Je m'explique. Si je veux dire qu'il faut lutter contre l'antisémitisme en France, c'est un homme ou une femme politique va le faire, pour que ça passe, elle va passer le racisme, le machin, l'homophobie, elle va tout passer autour, etc. Alors que, bien sûr que c'est... Alors moi, je n'utilise pas le mot islamophobie, déjà. C'est une grosse escroquerie. Mais ça, c'est un autre débat. Mais... elle va placer plein de trucs à côté, en fait. Et pour se dire, ouais, on ne peut pas parler que des juifs quand même. Il y a toujours ce truc, en fait. Alors que l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. Bien sûr que c'est une forme de racisme, mais de nouveau, c'est un racisme spécifique.
Pardon, Ismaël Saïdi, mais tout ce que vous dites, tous les juifs, ils doivent vous embrasser sur les deux joues, sur le bout du nez.
Non, j'en vois pas dans chaque coin de rue. Donc,
non, mais ce que je veux dire, c'est que les musulmans aussi. On n'a pas l'impression que les musulmans. Que beaucoup de musulmans aient cette approche.
Alors, c'est
la majorité silencieuse.
Bien sûr. Moi, je vais vous répéter une phrase que je répète à tous les gens qui me disent la même chose.
Je vous donne le point de vue.
Mais vous avez le droit de le donner et il est
tout à
fait.
Parce qu'on est sur Academ.
Et il est légitime. Vous savez, il faut souvent tendre l'oreille pour entendre le murmure de la majorité. Sinon, vous n'entendez que les cris de la minorité. Vous n'entendez que ceux qui gueulent, vous n'entendez que ceux qui vont faire des manifs Place de la République en mode mort aux sionistes. Mais la majorité silencieuse qui perd sa vie à la gagner, en fait, elle n'a pas envie de sortir. Alors, je n'ai pas à le reprocher de ne pas aller manifester. Chacun a envie de le faire ou pas, mais il y en a plein qui te disent « Mais moi, je veux éduquer mes gosses, moi, je ne veux pas aller faire des manifs. Ils sont majoritaires et j'en rencontre partout. »
Vous rencontrez beaucoup de musulmans qui pensent comme vous?
Ah oui. Je vais vous dire qu'ils sont majoritaires.
D'accord.
Alors, ils ne vont pas aussi loin que je peux aller. Encore une fois, moi, je suis un artiste. Donc, moi, je dois aller loin. C'est mon boulot. Moi, je dois aller loin pour permettre aux gens après de récupérer ce qu'ils veulent récupérer. Mais bien sûr. Et je vais vous dire, qu'est-ce que ces gens dont je fais partie veulent au départ? Quel est le rêve que vos parents avaient pour vous et que ces gens ont pour leurs enfants? C'est qu'à un moment donné, vous disparaissiez au point que vous fassiez partie de la masse. C'était ça, le rêve de mes parents. C'est ça mon rêve pour mes enfants. C'est qu'à un moment donné, cette différence n'existe plus. Elle est à l'intérieur. Mais quand tu sors dans la rue...
C'est les années 80, non? Ouais, vous pensez
mais,
pas?
Non, c'est les années 80.
En 2010,
mais non, elle existe 2020. Encore. Elle existe encore. Je ne dis pas que les ados ne font pas le contraire comme nous, on l'a fait.
Bien sûr.
Pour emmerder les parents. Parce que nous, les vieux, on a tendance à oublier qu'on a été ados.
Mais l'explosion des foulards, l'explosion des tout ça.
Mais très souvent, c'est très souvent.
Ça va être retiré une fois la crise d'ado passée?
Alors, c'est pas sûr. Mais ma petite expérience personnelle fait que toutes les filles que j'ai connues, parce que c'est nouveau en France, mais c'était vieux en Belgique, que j'ai connues qui étaient avec moi en classe, qui à un moment donné ont mis le foulard, elles étaient très majoritaires dans mon quartier. Si on prend un calcul basique, je crois que sur 10 filles qui avaient mis le foulard dans ma classe, il y en a peut-être une ou deux qui l'ont gardé. Elles, je les respecte, elles les gardent pour des convictions.
Bien sûr.
Ça les regarde. Et il y en a plein qui les ont retirés à travers le temps. Est-ce que retirer le foulard, c'est bien? C'est pas ça que je dis.
Non,
est-ce que le mettre, c'est bien? C'est pas ça que je dis. Je dis qu'à un moment donné, à 15-16 ans, il y a un milliard de paramètres qui font que vous allez être en rupture identitaire et en rupture avec vos parents. Et par contre, là où c'est dangereux, là où nous avons un travail, c'est quand vous êtes dans cette rupture-là, qu'elle soit identitaire ou qu'elle soit familiale, effectivement, les idéologies extrémistes peuvent rentrer et en profiter. C'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, dans ce djihadisme d'atmosphère qu'on a en France, ils sont de plus en plus jeunes. On le voit, en fait. Parce que si on ne fait rien, et Djihad parlait déjà de ça en 2014, si on ne fait rien, la rupture identitaire crée une faille dans ce que vous êtes, et là, l'idéologie extrémiste, elle rentre. Et elle vous protège, elle vous caresse, elle vous dit qu'elle vous aime, parce que d'autres ne l'ont pas dit. Et effectivement, là, ça y est, elle a ancré le « eux » et « nous ». Mais de manière globale, en France, la majorité de la population française de confession musulmane, elle n'est pas là-dedans, en fait. Elle n'est pas du tout là-dedans, en fait. Elle n'est pas dans le rejet de l'autre. Par contre, le travail qui est vrai, c'est de se dire, il y a un antisémitisme d'atmosphère. Il y a des gens qui croient aujourd'hui que dire « je suis antisioniste », ce n'est pas de l'antisémitisme. Et c'est cool. C'est cool, ça fait très réflexion politique. Antisioniste, c'est même beau à dire. Il y a un côté
comme on était pour
anti-marxiste,
le Che.
Pour le Che, bien sûr. Moi, c'est des Che Guevara de biche. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez classe. Et là, il y a un travail à faire, d'expliquer que non, l'antisionisme, c'est le cache-sexe de l'antisémitisme. Si tu grattes un peu, c'est de l'antisémitisme. Alors, ma pièce a été écrite bien avant 7 octobre. Elle n'était pas censée parler de ça. Mais puisque c'est arrivé, autant assumer. Le 7 octobre, des gens ont été massacrés, des femmes ont été violées, des enfants ont été kidnappés. On a même un record battu du plus jeune otage, je pense, de l'histoire de l'humanité, qui après a été tué. Le 7 octobre, toutes ces douleurs-là, personne ne l'a entendu. Le 8, on est passé à autre chose. Le 8, on a fait comme toujours, on s'est dit, quelle va être la riposte d'Israël? C'était ça, la question, le 8. D'accord. Le 9, certains parlaient déjà de génocide. Il n'y avait pas encore de réponse réelle, on va dire, de la part d'Israël. Même si je considère que la réponse a été disproportionnée, même si je considère qu'il y a eu un massacre après qui n'avait aucune utilité, parce que tuer des gens n'a jamais aucune utilité. Mais le 8 octobre, on n'a jamais écouté la douleur. Un peuple entier n'a pas été entendu. Un peuple entier pleurait des otages, suppliait pour qu'on la lui ramène. Un peuple entier n'a pas eu de réponse. Des affiches de bébés ont été arrachées partout, d'accord ? Cette douleur-là, comme elle n'a pas été entendue, eh bien, elle a fini en Israël par devenir de la colère. Et puis elle a fini par devenir de la haine. Et aujourd'hui, on entend dans la bouche de gens qu'il y a 10 ans, même il y a 2 ans, 5 ans, étaient pour une paix juste. On entend dans leur bouche des choses comme, de toute façon, ces Arabes, il faut qu'ils dégagent, ou il faut qu'on les tue, ça ne sert à rien. Mais ces gens ne sont pas nés comme ça. Ces gens ne sont pas nés en colère. Ce que le peuple israélien a demandé, le 8 octobre, c'était juste qu'on leur passe notre épaule pour qu'ils pleurent. Et ça, on ne l'a pas fait. On est responsable. Nous sommes, et je m'inclus dedans, nous sommes responsables, aujourd'hui, de la haine qui peut naître au sein de la société israélienne sur la population d'en face. Parce qu'à un moment donné, personne ne les a écoutés. Et donc, ma pièce, c'est ça. C'est de dire, en fait, si on veut avancer, vous et moi, je dois entendre votre douleur. Donc, si on doit retenir qu'une chose, j'ai fait une longue réponse, c'est ça, en fait, que toutes les douleurs se valent. Elles doivent toutes être entendues, sans exception. Vous savez, et j'aimerais finir là-dessus, parce que je ne vais pas vous monopoliser le crachoir, mais je parlais de douleur. Ces discussions, là, après le spectacle, on parle beaucoup des réfugiés palestiniens, qui, effectivement... pour certains ont été chassés, pour d'autres sont partis parce que les Arabes leur ont dit « partez, le temps qu'on les tue, vous allez revenir ». Donc l'histoire est têtue, il faut quand même se rappeler l'histoire. Et c'est le même principe. Je parlais d'ailleurs pendant un débat avec des jeunes qui me disaient « ouais, mais tu te rends compte quand même, il y a 600 000 et quelques Palestiniens qui ont été chassés ». Et j'ai dit « c'est vrai ». Et les 750 000 Juifs. Et là, ils découvrent. J'ai dit « parce qu'en fait, pendant ce moment-là, là, dans les pays arabes qu'il y avait autour, on les a chassés aussi ». On leur a pris leur maison, on les a massacrés. Je veux dire, il y avait des juifs en Irak, il y avait des juifs en Iran, il y avait des juifs en Syrie, il y avait des juifs partout, en fait. C'était une grosse diaspora. Maintenant, si tu calcules, il y a des pays où il en reste zéro. Enfin, c'est très simple. Ils sont plus ou moins, d'après les chiffres, 800, on va arrondir à 800 000. 800 000, ce n'est pas des réfugiés? Ah, tu as des gosses qui disent, mais ça, on ne nous avait jamais dit. Je dis, mais c'est des réfugiés. Au final, qui se retrouvent en Israël, donc d'une certaine manière, mais qui n'auraient peut-être pas voulu aller en Israël, qui étaient bien où ils étaient, en fait. Et donc, ça aussi, cette douleur-là, on n'en parle pas. Et je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas à changer les choses. Mais droit au retour pour qui, finalement? Droit au retour devrait être pour tout le monde.
Je souhaite à Jérusalem d'avoir la même longévité que Djihad.
Merci.
Pas le vrai Djihad, mais non, la pièce.
Il faut toujours faire attention. Hein. C'est comme la quand on tape Djihad sur Internet, on met pièce Djihad. Sinon, voilà. Vous avez l'énergie à la maison.
Et vraiment, bonne route.
Merci.
À cette très belle pièce, Jérusalem.
Merci
et
beaucoup.
On a hâte, plus tard, de voir la prochaine.
Ben, vous serez la bienvenue.
Ismaël Saïdi, merci.
Merci à vous.